Littérature. Expo. Cinéma. Littérature.
Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices de Transistor. Cette semaine, pour ce 46e numéro de Transversart, je vous propose la première partie d'un entretien avec le photographe Bruno Serralong. Parmi les bruits parfois animés de verre ou de théière, nous aborderons des enjeux qui traversent son travail depuis les débuts de sa carrière. En effet, en parcourant des terrains a priori destinés au photojournalisme, muni d'une chambre photographique, Bruno Serralong nous offre une appréhension singulière du réel et de ses représentations. Qu'est-ce que la pratique artistique a à nous apprendre de notre rapport au flux d'images médiatiques? De quelle façon éclaire-t-elle les processus de fabrication et d'avènement de ces images? Comment parvenir à se placer à contre-courant au sein de ce flux? Ce sont autant de questions que nous tenterons d'aborder au cours de ces deux épisodes, du projet initial aux aspects plus techniques de la démarche, des premiers faits divers couverts à Nice jusqu'aux séries de Calais ou Notre-Dame-des-Landes. Voici donc la première partie de cet entretien mené à Paris en ce début d'année. Bruno Serralong, bonjour. Donc, vous êtes, d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour vous présenter en quelques mots, on pourrait commencer par dire que vous êtes photographe. Mais très vite, très souvent, lorsqu'on vous présente, on s'empresse finalement de préciser que vous êtes surtout un artiste contemporain qui a choisi la photographie comme médium. On vous présente aussi comme un photographe commanditaire de ses propres reportages. Et on précise ça assez rapidement parce qu'en effet, quand on regarde votre travail, à première vue, on pourrait presque le confondre avec un travail de photojournalisme parce que vous travaillez depuis quasiment le début de votre carrière sur des séries et sur des terrains qui sont ceux des photojournalistes, des photographes de presse. Mais pourtant, votre démarche s'en différencie, alors on va y revenir. Et c'est une démarche qui s'en différencie de ce point de vue-là, du point de vue du projet, et aussi du point de vue matériel, puisque vous allez nous en parler, vous utilisez sur ces terrains-là, finalement, la chambre photographique sur trépied. Alors peut-être pour commencer un peu plus largement, vous pourrez peut-être nous présenter un petit peu en quoi justement votre démarche se différencie dès la démarche d'approche finalement de ces terrains-là.
Oui, en fait, vous avez effectivement commencé par préciser cette séparation qui existe entre photographe et artiste utilisant la photographie. C'est assez bizarre parce que c'est essentiellement en France qu'on l'utilise. Il y a plein de pays, les États-Unis ou même en Suisse, bref, plein de pays dans le monde où on ne fait pas cette séparation. En fait, on dit photographe. Mais c'est vrai qu'en France, on a quand même une histoire particulière de la photographie qui... a beaucoup été trusté par des photographes qui travaillaient dans le champ de la presse, en fait, beaucoup. On peut penser à Cartier-Bresson. Et j'ai l'impression que l'histoire de la photographie, c'est beaucoup, tout au long du XXe siècle, associé à son nom et donc à une certaine pratique qui est celle, effectivement, de la presse, donc du photojournaliste comme figure emblématique de l'histoire de ce médium. Donc effectivement, en France, c'est assez bien. Et moi, quand je me présente, je fais aussi un peu ce type de séparation entre... Je suis effectivement photographe, mais je travaille dans le champ de l'art, où je fais des photographies pour le champ de l'art, et pas du tout pour celui de la presse. Je le précise d'autant plus qu'effectivement, et vous l'avez mentionné, les photographies, a priori, en tout cas quant à leur sujet, on peut les voir dans les journaux, dans les magazines. Il n'y a pas de différence dans le sujet. La différence est certainement dans le traitement esthétique qui est fait. Parce que moi, j'ai fait des études artistiques, en fait. Tout d'abord en histoire de l'art, d'ailleurs, et puis ensuite à Arles, et puis la Villa Arson, à Nice. Que ce soit à Arles, à l'École nationale de la photographie ou à la Villa Arson, c'était vraiment pour développer un travail personnel en photographie. Et puis, donc, en arrivant à Nice, j'ai découvert la Villa Arson, mais aussi une ville que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai commencé, peut-être, ça ne nous éloigne pas vraiment de la démarche, même si c'est peut-être faire un petit détour, mais peut-être que ça permet de comprendre en fait d'où vient aussi cet intérêt pour l'information, les médias, etc. Donc, parce que c'est un mixte en fait, c'est un collage de deux choses. Donc pour en revenir à Nice, j'ai découvert cette ville et c'est là où j'ai commencé vraiment à penser la photographie comme possible travail artistique. Et j'ai réalisé deux séries pendant ces études à Nice, en fait, une série sur les faits divers et une autre sur les fêtes organisées par les villages dans les Alpes-Maritimes, en fait. Et donc Nice, sur les faits divers, c'est au départ ce qui m'intéressait, c'était de poser une méthode de travail, en fait, puisque en deux mots, pour en parler en deux mots de cette série, j'ai commencé ce qu'on peut appeler un protocole, finalement, de prise de vue. En lisant tous les matins la presse régionale, donc Nice Matin, et une rubrique particulière qui m'a, je me souviens, vraiment très très frappé au début où je lisais ce journal, c'est la rubrique des faits divers qui était vraiment très très grande, très très importante. Et je me suis dit, tiens, c'est pas mal d'utiliser cette rubrique pour faire des photographies. Mais l'idée, c'était un peu de poser des enjeux qui ressemblait à des enjeux, on peut dire, de la photographie ou de l'art conceptuel, c'est-à-dire mettre à distance une certaine subjectivité dans les décisions de prise de vue, c'est-à-dire décider que c'est la lecture des faits divers qui va décider d'une photographie. Ça aurait pu être autre chose, mais voilà, c'est une idée qui est jetée comme ça et qu'il faut suivre. Et du coup, j'ai suivi cette méthode. Lire tous les jours la presse, puis tous les jours, pas tous les jours, non, mais quand, presque tous les deux jours, aller faire une photographie au moment de la sortie, de la publication du fait divers, en retournant sur le lieu de l'événement et de faire une photographie. Et cette photographie était faite à la chambre, effectivement, puisque en fait, il ne s'agissait pas de saisir un événement, mais de saisir plus le lieu dans lequel il s'était passé. Puisqu'un fait divers, ça arrive rapidement, puis ça disparaît tout aussi rapidement, ça laisse aucune trace, a priori, dans l'espace urbain. Donc, c'était essentiellement des vols ou des agressions, mais effectivement, bon, très peu de destruction réellement qui laisse des traces deux ou trois jours après. Donc, les photos étaient des photos assez vides, où c'était des vues urbaines, des paysages urbains, en fait, où l'événement était vraiment très, très... inexistant. Il n'y a que 5 photos dans lesquelles on peut encore repérer des traces de l'événement. Et du coup, pour éviter que ce soit des photos dont le sens soit un peu trop ouvert, simplement des paysages, sous l'image, j'ai sérigraphié le texte du journal, un résumé que je faisais. Voilà, donc cette série, qui était vraiment pour moi liée au départ à un enjeu, encore étudiant en art finalement, se lancer dans une production qui fait référence ou rend hommage à quelque chose que j'aime beaucoup, à savoir effectivement la photographie conceptuelle des années 70 aux États-Unis ou ailleurs. Et petit à petit, la question de l'information est arrivée parce que dans les faits divers, il n'y a que des textes, en fait, il n'y a jamais d'images. Et j'ai commencé à lire avec vraiment beaucoup d'attention ces textes, et pas simplement comme des renseignements pour des photos possibles, mais lire comme on pourrait lire de la littérature. Et c'est là où je me suis aperçu qu'il y avait quand même deux ou trois journalistes qui étaient spécialisés dans la rédaction de ces faits divers, et qu'ils se jouaient des choses de l'ordre de l'enjeu de société politique, en fait, dans ces faits divers, que c'est pas simple. Quand on les lit comme ça de manière anecdotique, on peut pas peut-être avoir une vision d'ensemble, mais quand on les lit comme moi tous les jours, on s'aperçoit très vite qu'il y a beaucoup de aussi parce que c'était à Nice, il y avait beaucoup de racisme qui passait dans la rubrique de ces faits divers, et puis il y avait la même scission, qui est une scission géographique, on l'a retrouvée dans les faits divers également, c'est-à-dire qu'il y avait donc le quartier nord de l'Ariane, où il y avait donc les émigrés, deuxième génération, troisième génération, et puis dans les quartiers plus riches, on va dire les personnes un peu plus aisées, qui étaient souvent les victimes, et souvent donc ces jeunes, appelés maghrébins, arabes, barbus, en fait, étaient souvent présentés comme ceux qui étaient coupables, tout désignés. Donc progressivement, je me suis dit, tiens, mais ça c'est intéressant aussi comme lecture, indépendamment des photos. Ce qui est important, c'est de voir comment le tissu social finalement est tissé ou gangréné, ça dépend de quel côté on le lit, par ces faits divers. Et du coup, ce rapport à l'information, il est venu de là. C'est-à-dire qu'une information peut dire, avec une information, on peut créer soit du lien, soit effectivement quelque chose qui désunit. C'était parti de là.
C'est intéressant parce que justement, dès ce début, dès cette première démarche, il y a déjà l'idée du temps différent, de prendre le temps de lire régulièrement et de voir ce qui se passe sous le quotidien purement immédiat, et de révéler finalement, dans des photos que vous disiez qui pourraient sembler vides, de révéler quelque chose de bien plus latent, de plus profond. Mmh. Et ça, vous allez le garder, ce rapport au temps plus lent. Déjà, il est impliqué par votre démarche technique immédiate, forcément. Mais ça, vous allez le garder notamment avec les travails des séries. Vous travaillez tout le temps en série et vous choisissez toujours de vous installer dans un temps qui sera un temps plus long pour révéler finalement autre chose. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment une dialectique entre votre démarche technique et le projet de révéler quelque chose.
Oui, non, c'est clair que la chambre photographique, dès l'origine, en fait, je l'ai utilisée pour plein de raisons aussi, parce que ça fait référence à certains artistes, photographes aussi, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, qui utilisaient cet outil-là. Mais c'est clair que ça interdit certaines choses et ça en autorise d'autres. Donc ça interdit de pouvoir suivre un événement en se déplaçant très facilement, disons, puisque vous êtes effectivement installé avec un trépied, etc. Donc ça vous oblige à anticiper ou à prévisualiser beaucoup de choses. Donc à être très attentif à des questions de cadrage et de composition. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est que ça vous rend très très visible dans certaines circonstances de prise de vue où les photographes ont tendance à devenir de plus en plus invisibles. Vous, en travaillant à la chambre, vous êtes dans l'extrême inverse, c'est-à-dire que non seulement vous pouvez pas vraiment être, vous pouvez difficilement être mobile, mais en plus, vous ne pouvez pas vous cacher et faire des photos incognito. Donc, cette double contrainte de l'immobilité puis du fait d'être extrêmement visible nécessairement entraîne une fabrication de l'image très différente de celle d'un photographe de presse qui pourrait être lui très mobile et faire des photographies sans quasiment se faire repérer et puis en faire également, je sais pas, 100 ou 200. Moi j'en fais 2, 3 et c'est tout, puisque l'utilisation des châssis, des plans films, etc. rend l'opération encore plus lente de ce point de vue-là. Donc c'est effectivement un outil qui permet de, non seulement de ralentir, mais déjà de faire un pas de côté par rapport à la manière dont les photographes de presse travaillent, et donc un pas de côté par rapport à l'image qui va se construire d'un événement. Puisque, par exemple, elle est... quand je fais des portraits, parce que ça peut m'arriver, c'est des gens avec lesquels j'entretiens une certaine relation pour un long moment. Alors un long moment, ça peut être une heure, ça peut être une demi-heure, ce genre de choses, mais c'est déjà beaucoup plus long que ce que peut faire un photographe de presse qui veut prendre un portrait dans une foule, ce genre de choses. Donc c'est effectivement, là se révèlent d'autres choses, et puis ça permet aussi à certaines personnes qui ne veulent pas du tout être sur la photographie, décider de ne pas l'être, parce qu'ils ont le temps aussi de quitter le cadre, ou de venir me parler, puis de me convaincre de faire un autre type d'image. Donc effectivement, ce type de photographie est aussi beaucoup plus une possibilité de relation avec ce qui est photographié, quand ce sont des gens, que le photographe qui est lui à son appareil 24-36 et qui peut faire des photographies indépendamment de l'autorisation des gens, en fait.
Oui, et justement, ça implique une relation, mais aussi on peut se poser la question de la mise en scène ou de la place du hasard, parce que là, on est plutôt dans l'idée du temps rapide, de chercher le scoop, l'image, saisir un instant exactement précis, c'est pas vraiment possible. Mm-hmm. Alors, comment vous travaillez à ce niveau-là? Est-ce que vous êtes vraiment dans la mise en scène ou dans apparemment la mise en scène, mais l'image mentale? Parce qu'il faut aussi peut-être préciser que quand vous travaillez à la chambre, vous voyez l'image inversée dans votre viseur. Donc forcément, ça implique une idée de construction de l'image quand même à l'avance.
Surtout, elle est inversée, mais surtout au moment de la prise de vue, on ne la voit plus. Oui. C'est-à-dire qu'une fois que vous faites les mises au point, les réglages, vous mettez le châssis à la place du viseur. Et donc au moment où vous prenez la photo, vous ne voyez absolument pas du tout ce qu'il y a dans le cadre. C'est-à-dire que le cadre, vous l'avez enregistré mentalement. Et puis après, vous espérez que tout se passe bien au moment de la prise de vue. Alors quand il s'agit simplement de bâtiments a priori, il n'y a pas trop de risque de se tromper. Mais quand, moi, quand c'est mon cas, j'utilise la chambre dans des situations de manifestation ou des situations de rassemblement de personnes, où des choses bougent un peu en permanence, ben, il y a beaucoup de hasard, en fait. Le hasard, il est là aussi. C'est-à-dire qu'il y a à la fois beaucoup de décisions que je prends avant, c'est-à-dire de choix de cadre, etc. Mais au moment de la prise de vue, s'il y a des gens qui bougent, qui sortent du cadre, c'est difficilement contrôlable. Donc il y a effectivement à la fois une très grande maîtrise dans le cadrage et un moment de laisser aller, de déprise totale au moment de la prise de vue. Donc ce qui donne aussi des fois des erreurs, mais dont que j'utilise aussi, parce qu'en fait je fais très peu de photos et j'ai décidé de tout garder. Alors ça aussi, ça vient, je pense, de ma démarche des faits divers et puis quand même de cet amour pour la photographie conceptuelle. C'est-à-dire, j'aime bien décider de choses un peu absurdes. Parce qu'a priori, dans la photographie, on fait toujours des choix. L'editing, c'est ce qui est le plus important, parce qu'on choisit toujours la meilleure photo. Moi, comme j'en fais très peu à la chambre, j'ai décidé aussi qu'en contrepartie, j'allais pas choisir. Et que quand il y a 14 photos qui sont faites, les 14 photos existent. Quand il y en a 200, les 200 existent. Quand il y en a 50, les 50 existent. Indépendamment de leur qualité, parce qu'il y en a forcément des meilleurs que d'autres, des plus réussis. Puis il y a des photos floues. Elles restent quand même dans la série. Voilà, j'aime bien ces contraintes un peu qui viennent de loin maintenant, mais avec lesquelles je continue à travailler.
Peut-être pour préciser un peu, parce qu'on n'a pas forcément dit, justement le type d'événement que vous avez pu couvrir. Vous avez couvert notamment des manifestations, on en a un petit peu parlé, des sommets mondiaux. Mais vous avez des sommets mondiaux, des grèves, vous avez suivi les grévistes à Châtellerault, je crois.
Châtellerault, oui.
Et puis vous avez également fait une série à Calais, qui est une série un peu particulière parce qu'elle s'est vraiment étendue sur un temps plus long que les autres, si je ne me trompe pas. Et c'était
J'ai commencé en 2006.
2006, Calais. C'est ça. Et vous êtes resté...
Calais, en fait, pour tout vous dire, j'y retourne la semaine prochaine. Donc c'est une série qui n'est absolument pas finie. Je pense qu'elle n'aura pas vraiment de fin, puisqu'elle est liée à la présence de ces migrants qui cherchent à rejoindre l'Angleterre. Et tant que les accords du Touquet seront ce qu'ils sont, il y aura toujours des migrants qui essaieront de passer par Calais pour rejoindre l'Angleterre. Donc c'est une série qui n'a pas de fin. Et je l'ai commencé en 2006 et j'y retourne régulièrement. Au moins une fois par an, pour une semaine, ce genre de choses. Donc là, j'y retourne la semaine prochaine. Parce que j'étais pas retourné en 2017. Donc en fait, là maintenant, c'est vrai que j'y vais un peu moins. La dernière fois où j'étais allé, c'était en 2016, au moment de la destruction du bidonville. Là, j'ai fait un travail à la fois à la chambre, puis un nouveau travail que j'appelle un compte-rendu, qui est un travail fait avec un appareil photo numérique, un 24-36, comme photographe de presse. Mais il y a d'autres petits décalages qui font que ça ressemble toujours pas à la photographie de presse. Et là, j'y retourne aussi parce que depuis, la situation a beaucoup changé. En fait, on est revenu à ce qui se passait en 2006, c'est-à-dire des petits groupes de migrants qui sont disséminés un peu partout dans les environs de Calais, avec certainement, et c'est ça qui a changé, des conditions de vie qui sont pires qu'avant encore, puisque là, les ordres de la police sont vraiment d'empêcher à ce qu'ils restent vraiment dans leurs abris. Alors qu'en 2006, 2007, 2008, ils avaient quand même la possibilité, même si il y avait constamment des descentes dans ces camps, ils avaient la possibilité de rester plusieurs mois au même endroit, en fait. Ces camps étaient peut-être vidés une fois par an, mais alors que là, c'est vraiment du harcèlement quotidien. Donc c'est encore une autre situation. Donc je ne sais pas exactement ce que je vais découvrir. Je ne sais pas, je vais travailler à la chambre, bien sûr, encore, peut-être aussi au numérique. Mais je pense être il y aura certainement davantage de photographies avec des policiers, des CRS qui ont toujours été très présents, mais qui là sont vraiment beaucoup plus au contact des migrants très régulièrement.
Et là justement, il y a aussi une autre ambiguïté quand vous êtes face à ces situations, de se dire je pose mon appareil, je m'installe. Ça peut aussi être un plus. ça marche dans le sens ça peut être un peu impudique de se placer face à des situations, et d'un côté on peut se dire en prenant le temps je leur donne du temps aussi, je leur donne de l'espace et je leur donne une forme de peut-être de dignité entre guillemets, ou de visibilité différente.
C'est clair, c'est qu'il y a une sorte de toujours de collaboration en fait dans ces types, notamment à Calais en fait, où sont des populations qui pour des raisons tout à fait valables limitent le plus possible les prises de vue, les photographies ou les portraits qui sont faits d'eux. C'est clair qu'il faut absolument demander un, l'autorisation, et deux, pas simplement demander, mais dire pourquoi on veut photographier telle ou telle personne, où la photographie va ensuite être utilisée, dans quel contexte elle va être utilisée. Enfin bref, donner toutes ces indications à la personne qui, a priori, vous ne reverrez jamais, en plus, ou très peu. Moi, à Calais, j'ai jamais revu les mêmes personnes, tout en y allant quand même très souvent, sauf au moment du camp, parce que ça c'était encore différent puisqu'il y avait des gens qui restaient vraiment dans ce camp, là, on pouvait les retrouver, mais avant, donc en période 2006, 2009 etc, j'ai jamais revu les mêmes personnes. Donc c'est très important de prendre le temps de leur expliquer ce que vous faites, qui vous êtes et pourquoi vous voulez les photographier, qu'il ne s'agit pas de d'une photographie anthropométrique, anthropologique ou judiciaire, mais que ça rentre dans un autre cadre qui est effectivement leur donner une identité, une dignité. En fait. Et il est arrivé plusieurs fois que ce soit du coup les migrants qui me demandent à ce que je les photographie. En fait. Aussi parce que je reste dans les lieux avec eux pendant très longtemps, donc se crée aussi, j'imagine, soit une confiance, soit une discussion indépendamment de l'appareil photo. C'est-à-dire que je mets la chambre. Au départ, en plus, à Calais, c'était une chambre 20-25, donc c'était vraiment le plus grand modèle de chambre qui peut exister. Donc c'est quelque chose qui est très visible, très lourd, etc., installé. Donc hop, je l'installe, et puis après, pendant une après-midi ou quelques heures, je discute avec eux, et puis on parle de plein de choses. Et à un moment donné, quand même, je les ramène progressivement vers le sujet qui est la raison de ma présence ici, qui est de faire des photographies. Et donc, là, ils se décident, quoi, oui ou non, est-ce qu'ils veulent être sur l'image, ou bref. Mais c'est toujours des moments où ce qui compte... Bien sûr, ce que le spectateur après a, c'est simplement une image, mais ce qui compte pour moi, c'est aussi tout ce moment passé, se passer avec eux, en fait, passer avec ces gens-là. En fait.
Et ensuite, au moment de l'exposition, comment ça se passe? Est-ce que vous avez des cartels où vous présentez un petit peu la situation de la manière, comme vous avez pu le faire pour les faits divers? Ou est-ce que...
Il y a un titre, en fait, un titre qui est assez explicite, et puis il y a souvent un texte qui accompagne l'exposition, mais qui n'est pas... J'ai jamais repris cette idée de sérigraphier à nouveau sous l'image du texte, en fait. Non. Donc, pour les faits divers, il y avait du texte parce que le titre, c'était un numéro et une date. Alors que là, il n'y a pas besoin de texte, parce que le texte, c'est le titre, qui est des fois même très long. Dans certaines séries, le titre peut faire 4-5 lignes, ou d'autres, des fois c'est plus bref, mais il donne beaucoup d'indications. Donc on sait où on est, on sait qui c'est souvent, quand les gens donnent leur nom, leur prénom, c'est mentionné. Donc je me dis que ça suffit, en fait. Et puis après, il y a ce contexte hors champ, ou plutôt, j'ai souvent l'habitude de dire aussi que mes photographies, finalement, c'est déjà du déjà-vu. Enfin, on a déjà un peu en tête, par exemple, Calais, quand vous dites Calais à des personnes ici, on a tous, en tout cas en tant que Français ou Française, des images où on a entendu parler dans la presse, on a vu des reportages. Donc il y a tout ce contexte, ce hors champ qui aide aussi à comprendre les images. Et, donc non, pas trop de... plus trop de texte.
D'un côté, on a ce contexte, mais souvent, le temps de l'exposition arrive aussi un peu en décalage avec, en particulier Calais, c'est pas vraiment le cas, puisque c'est toujours une situation qui dure, mais ça arrive quand même en décalage, donc on a ce contexte, mais ça nous ramène aussi, le fait de voir une photographie peut-être plusieurs mois après, plusieurs années après, ça nous ramène aussi à, forcément, on pense au flux des images quotidiens qui nous assaillent, entre guillemets. Et là, tout d'un coup, on est de nouveau face à une situation qu'on aurait pu oublier il y a un moment, qui aurait pu passer finalement parmi toutes les autres images qu'on a vues. Et ça nous recentre un peu sur l'objet même photographié. C'est-à-dire qu'on n'est plus... Enfin, il me semble qu'on peut faire un peu, peut-être dans votre travail, une différence entre image et photographie. Mm-hmm. Là, on est vraiment face à un objet, à quelque chose de très matériel, en fait, qui sont des grands formats.
En exposition, tout à fait. Ouais. Voilà. Elles sont encadrées avec du verre ou du plexiglas. Oui. Elles font à peu près 1m30 par 1m60. Donc oui, on est face vraiment à des objets. Ouais.
On peut pas... C'est une façon aussi de s'extraire pour vous de ce flux. Enfin, là, ce n'est pas des images qu'on peut vraiment zapper, entre guillemets. Mm-hmm. On peut pas les... Elles s'imposent à nous un petit peu par ce format immense. Et du coup, oui, c'est quand même ce dialogue qui s'instaure avec les médias qui continue quand même jusque dans le temps de l'exposition.
Oui, en fait, moi j'ai commencé, donc comme je disais, si on en revient à Nice, quand j'ai commencé cette série qui m'a entraîné sur ces questions liées à l'information, au journalisme, etc., j'avais pas toutes les cartes en main. Enfin, j'ai commencé cette série de manière assez naïve, encore une fois, je disais vraiment par rapport à des enjeux qui viennent de la photographie conceptuelle, mais tout ce qui était en jeu dans cette série, ou en devenir, je l'ai découvert au fur et à mesure en faisant les images. Donc après les faits divers, sur ce même mode, je suis parti au Mexique en fait, et c'est la série qui suit. Bon, il y a eu de petites choses entre, mais la série qui suit, c'est le sous-commandant Marcos au Chiapas, qui appelle avec cette guérilla zapatiste à une rencontre internationale. Et puis je décide d'y aller pour faire des photographies. Mais sur le moment où je fais cette photographie, je suis, on va dire, c'est le temps zéro. C'est-à-dire que je suis contemporain de l'événement. Et puis après, bien évidemment, il y a ce décalage qui intervient. C'est-à-dire que l'événement, c'était août 1996. Et puis maintenant, on est en 2018. Donc qu'est-ce que ça veut dire, tout d'un coup, si on est à nouveau face à ces images en 2018, plus de 20 ans après l'événement, qu'est-ce que l'on retient de cet événement? Moi, je suis toujours assez frappé parce que j'enseigne dans une école d'art et souvent en début d'année, les enseignants présentent leur travail. Et donc, je m'adresse à des gens qui ont à peine 20 ans. Et donc, je ne peux pas leur dire, vous avez entendu parler de cet événement là, du commandant Marcos en 1996. 96, c'était leur date de naissance à certains. Donc forcément, il y a ce décalage qui est très important aussi, parce que ça crée, certainement, pour le public plus jeune ou qui n'est pas du tout contemporain de cet événement, un questionnement vis-à-vis de cet événement, de quoi est-ce qu'il s'agissait. Et du coup, là intervient aussi ce questionnement sur qu'est-ce que l'on restitue d'un événement, en fait. Qu'est-ce que la photographie peut donner à comprendre d'un événement et qu'est-ce qu'elle laisse de côté par rapport à d'autres médias comme la vidéo, comme la littérature, comme le texte, comme la radio, par exemple. Donc là, c'est vrai que le temps fabrique beaucoup la signification dans mes photos aussi, en fait. Parce que plus on s'éloigne de l'événement, plus peut-être cet événement devient énigmatique et donc nécessite de la part du spectateur un travail de redécouverte, on peut dire ça, ou de reconstruction de l'événement. Donc oui, le temps est un facteur assez décisif dans la fabrication de mon travail.
La semaine prochaine, la suite de l'entretien abordera plus longuement les questions de la relation au spectateur et au militantisme, ainsi que les modalités plus concrètes de l'élaboration des séries. Pour patienter, vous trouverez en description de l'émission les liens vers le site de Bruno Serralong, celui de sa galerie, Air de Paris, et pour ceux qui en ont l'occasion, une de ses premières séries consacrée aux fêtes des villages dans le sud de la France est actuellement visible à la Galerie des Galeries à Paris. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine à tous à l'écoute de Transistor.